Bien, bonsoir et merci d'être venu. Donc, je suis très très heureux d'accueillir ici, en tant que Bordelais, en tant que co-auteur du livre dont nous allons parler, d'accueillir Philippe Mérieux. Alors, Philippe Mérieux, comme on le dit habituellement, on ne le présente pas. Il est probablement le pédagogue ou le penseur de la pédagogie le plus connu dans notre pays. Et il a même été, à une certaine époque, extrêmement connu parce qu'il a été extrêmement critiqué dans une période de guerre civile dont notre pays a le secret, quand pendant une dizaine d'années, nous avons opposé les républicains aux pédagogues et Philippe était l'incarnation de la pédagogie, accusée de toutes les défaites de l'école, de l'esprit de 68, de l'infantilisme, du laxisme, du recul de la culture, de la fin de la civilisation et de péchés probablement plus graves encore. En fait, cette querelle n'était pas complètement ridicule, même si je peux témoigner que, m'étant trouvé à l'étranger à ce moment-là et devant expliquer à des Allemands pourquoi en France les pédagogues et les républicains s'étripaient, ils n'ont jamais compris pourquoi le fait d'être républicain empêchait d'être pédagogue et le fait d'être pédagogue empêchait d'être républicain. Mais on sait bien que la nature de ces discussions était au fond de savoir si l'enseignement était centré sur, comme au fond dans la vieille tradition française, était centré sur l'autorité du savoir et l'autorité du maître d'abord, ou si l'enseignement était centré plutôt sur l'activité de l'élève, puisque vous le savez, un des drames de l'éducation, c'est qu'elle ne marche que si l'élève y participe. On peut apprendre un tas de choses dans la vie sans y croire. On ne peut pas apprendre les mathématiques sans s'y intéresser. C'est pas possible, tout simplement. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que la pédagogie ne sera jamais pavlovienne. Il ne suffira pas de battre les élèves pour qu'ils apprennent. Il faudra qu'ils s'intéressent quand même à ce qu'ils apprennent. Alors avec le livre que nous propose Philippe sur le plaisir d'apprendre, dans un climat plus apaisé, je crois qu'il renouvelle au fond ses péchés, puisque le livre est encore un appel, non pas au plaisir, mais tu me diras si je me trompe, à l'idée que le plaisir est nécessaire à l'apprentissage. D'ailleurs, même ceux qui, parmi nous, ont appris des choses à l'école, dans une école qui, de mon point de vue, ne valorisait pas tellement le plaisir d'apprendre, malgré tout, avaient pu y dénicher quelques petits moments de plaisir ou de bonheur qui ont laissé des traces. Autrement, il n'y en a pas. Et puis, on pourrait évoquer que beaucoup de gens font des choses extrêmement difficiles, comme apprendre de la musique ou apprendre à jouer aux échecs, et qui souffrent et que ça leur fait plaisir de souffrir pour apprendre quelque chose. Donc, le plaisir et l'apprentissage ne sont pas antinomiques, mais évidemment, le titre a quelque chose de provocant. Donc, il y a dans ce livre un texte de Philippe qui développe ses idées et il va évidemment les reprendre devant vous. Et puis il y a un certain nombre de témoignages, soit de textes faits par quelques-uns dont moi, qui justifient au fond cette idée qu'il faudrait que le plaisir ou le bonheur participe de l'apprentissage scolaire. Et puis des entretiens avec des gens qu'on n'est pas surpris de trouver là, comme Cyril Nick, qui est aussi d'ailleurs un Bordelais, parce qu'il y a quand même une grande tradition pédagogique dans ce pays, depuis Montaigne jusqu'à Cyril Nick, et des gens qui sont peut-être un peu plus étonnants, mais qui au fond ont une discussion avec toi très, très chaleureuse, comme Marcel Gaucher, qu'on identifiait plutôt traditionnellement à l'autre bord idéologique. Alors, je crois que le plus simple serait que tu présentes ton projet et ton livre. Éventuellement, je m'autoriserai à répondre à des questions, puisque j'ai pour une part très minime participé à ce livre. Et je te donne tout de suite la parole pour que tu nous dises quel est le projet de ce nouvel ouvrage.
Merci infiniment à François Dubé de cet accueil. Merci à la librairie Mola. Il se trouve que c'est la première fois, et j'en suis très heureux, que je viens dans cette librairie qui, dit-on, est la plus grande de France, la plus grande librairie indépendante française. Donc, je suis très flatté qu'elle m'accueille ainsi, et surtout à l'occasion de cet ouvrage, où j'ai été très heureux d'accueillir le texte et la contribution de François Dubé. Je ne vais peut-être pas reprendre la totalité du contenu de l'ouvrage, ce qui serait évidemment long, fastidieux et un peu redondant, mais vous dire en deux temps, d'une part, quelle est la genèse un peu de cet ouvrage et pourquoi il est sorti, comment est né le projet, et puis ensuite, à partir de là, quelles sont les perspectives qui me paraissent s'ouvrir dès lors qu'on s'intéresse à cette question du plaisir d'apprendre telle que vient de la présenter François Dubé. Alors, la genèse de cet ouvrage, elle est triple. Il s'enracine sur trois types de travaux, de convictions construites tout au long de mes recherches. D'abord, un constat ancien que vient de rappeler François, un constat qui n'a rien perdu de son caractère subversif, quoi qu'il soit en permanence à réactualiser, qui est cette double dissymétrie entre l'élève et le savoir. Les savoirs, la culture, préexistent toujours, évidemment, à ceux qui se les approprient. Le théorème d'Archimède, la loi de Joule, les poèmes d'Apollinaire précèdent l'apprentissage par les élèves des mêmes théorèmes ou des mêmes poèmes. Mais néanmoins, si cette antériorité ontologique, en quelque sorte, au niveau de l'être, est absolument indiscutable. Dans le domaine de l'apprentissage, c'est l'intention, la mobilisation du sujet qui précède la construction, l'élaboration, la formalisation des savoirs. Il y a là une sorte de double antériorité qui a toujours un caractère un petit peu scandaleux quand on la repère, parce qu'on est amené effectivement à souligner, comme l'a fait François Dubé tout à l'heure, qu'on ne peut pas apprendre les mathématiques à la place de quelqu'un d'autre, pas plus qu'on ne peut apprendre à nager à la place de quelqu'un d'autre, que l'apprentissage est toujours un acte qui nécessite l'investissement de la personne dans ce qu'elle fait, et que cet investissement, nous ne pouvons pas le décréter mécaniquement comme on déclenche le décollage d'une fusée à Cap Canaveral. Il y a là quelque chose qui échappe à toutes les technocraties possibles et qui amène tout pédagogue à s'intéresser à cette question du désir, cette question du plaisir, avec parfois un peu de doute sur sa possibilité de faire face à cette interrogation. J'essaye de montrer dans le livre qu'il y a un caractère un peu extravagant quand on réfléchit à ce qu'est l'éducation nationale, dont on disait qu'elle était la deuxième entreprise du monde après l'armée rouge, compte tenu de l'état de l'armée rouge, quoi qu'elle se reconstitue, dit-on, on peut supposer que l'éducation nationale est aujourd'hui la première entreprise du monde. Et il y a un caractère un peu dérisoire dans le fait que cette gigantesque entreprise, avec des conseillers, des inspecteurs, une mécanique extrêmement lourde, des gens qui sont très sérieux et qui bataillent dur autour d'enjeux institutionnels extrêmement forts, eh bien c'est une sorte de pyramide qui serait posée sur la pointe, puisque l'efficacité de tout cela est finalement relative à l'engagement de chacun des élèves dans cet acte d'apprendre, engagement qui n'est jamais assuré a priori et que le sérieux de toute cette mécanique ne garantit pas in fine. Donc c'est le premier constat, nous l'avions fait, tous les pédagogues l'ont fait depuis longtemps, mais c'est un constat qui me semble nécessaire de rappeler pour nous ramener à une forme de modestie et pour nous dire aussi que dans ce domaine, rien ne fonctionne par décret et qu'il ne suffit pas, comme l'ont fait un temps ceux qui se prétendaient républicains, de décréter que les élèves apprennent pour qu'ils le fassent. Le deuxième élément qui a nourri le projet de cet ouvrage, ce sont les travaux que j'ai faits depuis une dizaine d'années sur le courant de l'éducation nouvelle. Alors, ces travaux avaient donné lieu à un livre plus scientifique, traditionnellement, où j'essayais de décortiquer les concepts de l'éducation nouvelle, un livre paru dans une collection plus réservée aux spécialistes et qui s'intitule « Pédagogie des lieux communs aux concepts clés », où je m'étais intéressé aux lieux communs de l'éducation nouvelle, type le respect de l'enfant, apprendre à apprendre, la motivation, etc. Et où j'avais essayé de montrer que derrière ces lieux communs qui réunissent l'ensemble des militants pédagogiques, eh bien, il y a souvent des courants un peu différents, qu'il y a même parfois des contradictions et qu'il faut dépasser les slogans pour essayer de comprendre ce que peuvent signifier ces lieux communs, comment ils sont à la fois nécessaires à la mobilisation, mais comment ils sont aussi des paravents parfois qui cachent des idéologies extrêmement différentes. Et je m'étais intéressé, à l'occasion de ces travaux historiques sur les textes fondateurs de l'éducation nouvelle, depuis le congrès de Calais de 1921 jusqu'aux années 2000 à peu près, je m'étais intéressé à la question de la motivation. Parce que c'est un leitmotiv, évidemment, dans l'histoire de l'éducation nouvelle. Alors, j'avais rencontré autour de cette affaire de la motivation un certain nombre de thématiques traditionnelles. Alors, l'éducation nouvelle se construit en grande partie en expliquant que la motivation ne s'élabore pas, ne se met pas en place à travers le couple punition-récompense, bonne note-sanction, et qu'il faut s'écarter de ce couple-là qui renverrait à un modèle plutôt béhavioriste ou plutôt pavlovien, comme le disait François Dubé tout à l'heure, pour essayer de trouver ce qui motive réellement les élèves et qui va leur permettre de s'engager dans l'apprentissage. Alors l'éducation nouvelle, là-dessus, a développé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toute une série de courants avec des nuances et des différences très significatives. On trouve dans le courant de l'éducation, dans le courant global de l'éducation nouvelle, tous ceux qui considèrent que la motivation doit être strictement construite sur, on va dire, l'employabilité des savoirs dans la vie quotidienne. Globalement, ceux qui disent qu'il faut apprendre aux gamins à faire des soustractions parce que ça lui permet de vérifier sa monnaie quand il va faire des courses. On monte ainsi jusqu'à des savoirs qui vont le préparer progressivement jusqu'à la vie professionnelle. Il y a de très gros débats au sein de l'éducation nouvelle autour de cette conception de la motivation. Très vite d'ailleurs, une grande partie des penseurs de l'éducation nouvelle, en particulier toute l'école genevoise, va contester cette conception de la motivation en disant, d'une part, c'est un peu étriqué, il n'est pas sûr qu'on soit capable de mobiliser les élèves avec des savoirs purement utilitaires comme cela, et si on monte par degrés jusqu'aux savoirs les plus élaborés que l'on doit enseigner pour former l'honnête homme du XXe siècle, eh bien, il n'est pas sûr que leur réutilisation soit assurée et garantie. Et d'autre part, un certain nombre de penseurs de l'éducation nouvelle insistaient sur le fait que cette conception utilitariste des savoirs faisait l'impasse sur le plaisir proprement intellectuel que l'élève devait acquérir, sur le rapport au savoir qu'il devait entretenir, sur la jouissance même qu'il devait trouver dans l'apprentissage et qui pouvait nourrir autre chose qu'une simple attitude stratégique qui consiste à savoir ce qui est directement utile, qui pouvait nourrir le développement de sa vie personnelle dans toutes les dimensions. Alors on voit apparaître autour d'un personnage qui va jouer un rôle très important dans l'éducation nouvelle, quoi qu'il n'y soit pas directement impliqué, puisqu'il vit aux États-Unis, qui est Dewey, on voit apparaître l'idée que l'utilitarisme n'est pas suffisant, il peut être utile, il peut être important, mais il n'est pas suffisant pour susciter ce plaisir d'apprendre, et il faut l'aider, l'accompagner, en introduisant ce qui relève, pour Dewey, d'une philosophie de la continuité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la philosophie de Dewey là-dessus. Globalement, Dewey dit, ce qui doit guider le pédagogue, c'est le fait qu'entre ce que vit l'enfant et les savoirs qui lui sont enseignés, nous avons à restaurer, à rétablir en permanence une forme de continuité, mais pas entre ce qu'il vit simplement au sens de ses besoins matériels, ce qu'il vit aussi dans sa tête, c'est-à-dire ses angoisses, ses inquiétudes. Et il revient au pédagogue, explique Dewey, de faire en sorte que ce que l'enfant a de plus intime entre en résonance avec ce que la culture a de plus universel. Il revient au pédagogue de faire en sorte que ce qui, pour chaque enfant, relève de sa peur, de ses espérances, de son rapport à l'autre, de son rapport au monde, eh bien, entre en écho avec les œuvres de la culture qui lui donneront les moyens de penser son chaos intérieur autrement que sur le registre strictement psychologique, mais avec des outils intellectuels, des outils mentaux que précisément les savoirs et la culture vont lui apporter. Et ce que dit Dewey dans, par rapport à un certain nombre de pédagogues de l'éducation nouvelle qui restent très utilitaristes et qui disent qu'il faut apprendre ce qui est utile, c'est qu'il faut réinternaliser la question du désir et du plaisir d'apprendre. Il ne faut pas que le désir et le plaisir d'apprendre soient en permanence liés à ce qui se fait à l'extérieur de l'école, après l'école, en disant « tu souffres ici, mais ce n'est pas grave, puisque tu trouveras de l'intérêt, voire du plaisir à utiliser ce que tu as appris à l'école ». Il faut que dans l'activité intellectuelle de l'élève, telle qu'elle se fait dans la classe, telle qu'elle s'opère dans la classe, eh bien, il soit capable d'éprouver ce plaisir de l'intelligence. Alors, intelligérer, c'est relier, c'est-à-dire ce plaisir qui consiste à relier les choses entre elles. Et Dewey insiste sur le fait que cette liaison, c'est ce qui crée des modèles, et à travers des modèles, des théories, et à travers des théories, des conceptions du monde, et à travers des conceptions du monde, ce qui rend possible le débat démocratique et la vie politique dans son sens le plus noble. Alors, ça m'a intéressé de rentrer dans cette querelle autour de la motivation et en particulier de regarder ce débat entre ceux qui expliquent que la motivation, c'est l'utilité, et ceux qui pensent que la motivation, c'est aussi la possibilité de trouver du plaisir dans l'acte même d'apprendre. Ce débat, d'ailleurs, va se manifester dans l'éducation nouvelle. Je ne l'évoque pas du tout dans le livre, mais c'est une manière d'éclairer un petit peu ce qui est dit dans le livre, à travers toute une série de conflits très forts hein, autour de l'intérêt de l'enfant. Alors, vous savez, c'est un des lieux communs de la pédagogie, il faut viser l'intérêt de l'enfant. Mais quand on dit l'intérêt de l'enfant, on ne sait jamais si c'est ce qui l'intéresse ou si c'est ce qui est dans son intérêt. Si c'était ce qui l'intéresse, on serait obligé d'en rabattre pas mal par rapport. Et si c'est ce qui est dans son intérêt, c'est nous qui définissons ce qui est dans son intérêt. Alors si tout ce qui était dans son intérêt l'intéressait et tout ce qui l'intéressait était dans son intérêt, le problème serait évidemment résolu de facto. Mais il se trouve que ça n'est pas ainsi que ça se passe, qu'il y a un certain nombre de choses qui intéresse spontanément les enfants et dont les enseignants, les parents même, pensent que ce n'est pas nécessairement dans leur intérêt de s'y adonner, et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dans l'intérêt des enfants aux yeux des adultes et qui n'intéressent pas spontanément les mêmes enfants. Alors ce débat autour de l'intérêt de l'enfant, comment réconcilier ce qui l'intéresse et ce qui est dans son intérêt, est évidemment au cœur de l'éducation nouvelle. Et la manière de dépasser ce débat, eh bien, c'est peut-être justement de montrer que la motivation n'est pas quelque chose qui préexiste au savoir lui-même, c'est quelque chose qui peut exister parce que la culture, les œuvres de l'esprit ont une attractivité spécifique qui peut permettre à l'intelligence de découvrir du plaisir là où spontanément elle ne le voyait pas ou ne le croyait pas possible. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin et vous assommer avec ces débats du XXe siècle et du siècle passé. Il y a une troisième source à ce livre qui est liée à une série d'entretiens que j'ai pu avoir avec Marcel Gaucher sur France Culture et au Festival d'Avignon. sur des thèmes qu'il a repris ensuite dans un certain nombre de ses livres, et en particulier dans un livre qu'il a écrit avec ses collègues Blé et Otavi, qui s'intitule « Conditions de l'éducation », thème qu'il reprend, à mon avis, d'une manière un peu différente, dans leur dernier livre qui s'appelle « Apprendre, transmettre ». Gaucher souligne, et il le réexplique dans l'ouvrage, que le renversement anthropologique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et il devient anthropologique, tient en fait que nous assistons à ce que, dans un autre article du livre, Stigler appelle une forme de désidéalisation des savoirs. Gaucher dit, au fond, dans toute l'histoire et depuis des millénaires, les hommes ont souffert par le corps et se sont élevés par l'esprit. Le corps était le lieu de la souffrance et l'esprit l'occasion de l'élévation. Et il dit, l'ensemble du message que nous envoyons aujourd'hui à travers ce que Stigler appelle le capitalisme pulsionnel, c'est l'inverse, à savoir que tout le plaisir vient du corps et des différentes prothèses qu'on lui adjoint, et que l'apprentissage, l'esprit, les œuvres de l'esprit sont génératrices de souffrance. Ce qui, dit autrement et d'une manière plus triviale, revient à se demander comment convaincre des élèves de prendre du plaisir à l'école, c'est-à-dire de se prendre la tête, quand par ailleurs on les enjoint à ne prendre que leurs pieds. Hein, comment leur expliquer qu'il peut y avoir du plaisir dans ce qu'ils risquent de ne vivre que comme une souffrance, alors que on leur explique que l'objectif numéro un, c'est précisément de prendre du plaisir ailleurs que dans ses activités intellectuelles, dont ils ne sont pas d'ailleurs, par rapport auxquels ils ne sont pas fondamentalement réfractaires. Il suffit de voir des enfants ou des adolescents s'activer sur des jeux vidéo pour voir qu'ils sont parfaitement capables d'apprentissages extrêmement complexes, extrêmement techniques. Mais Gaucher montre, de manière qui mériterait d'être discutée, mais qui me paraît interpellante, que les élèves les plus en difficulté sont ceux qui, précisément, n'ont pas découvert qu'il y avait du plaisir dans le savoir et qui vivent avec le fait que ce savoir n'est que souffrance et que la souffrance est génératrice d'échecs, et qu'à partir d'un certain moment, François Dubé a dit ça très bien dans ses ouvrages, l'élève préfère se mettre en échec plutôt que de jouer à un jeu où il est toujours perdant. C'est quand même moins humiliant de dire « l'école, je n'ai rien à foutre » que de travailler 5 heures par jour à la maison pour avoir 7 sur 20 toute l'année. Donc à partir du moment quand on perd tout le temps, il vaut mieux décider de se mettre hors jeu. Mais là, je vous renvoie aux travaux de François Dubé et à ce qu'il a écrit sur ces questions qui fait autorité. Donc il y a eu en quelque sorte trois origines à cet ouvrage qui m'a fait proposer donc à un éditeur particulier autrement de faire un manifeste, c'est un ouvrage un peu particulier, sur cette question du désir d'apprendre en associant un texte que j'ai pu écrire et puis des contributions diverses, contributions qui émanent de philosophes ou de sociologues, mais aussi qui émanent de praticiens, qui émanent de gens qui travaillent dans des domaines peu connus dans l'éducation nationale. Il y a par exemple un texte d'André Malicot qui est le responsable de la formation aux compagnons du Tour de France et qui fait l'éloge de la pédagogie du chef-d'œuvre, ou des textes issus d'écrivains. Il y a un très beau texte par exemple d'un écrivain que je trouve tout à fait remarquable sur les questions d'apprentissage, qui est Jeanne Benhamer, dont les romans, en particulier Les Demeurés, mais d'autres aussi qu'elle a écrits depuis, disent probablement infiniment plus sur les difficultés à apprendre que beaucoup d'ouvrages de psychologie cognitive. Donc je me suis efforcé de réunir ces auteurs pour témoigner d'un certain nombre de convictions qu'il pouvait avoir ou d'analyse qu'il pouvait faire sur cette question de l'importance du plaisir d'apprendre. Alors, à partir de là, et dans une deuxième partie qui sera peut-être plus courte, trois perspectives se dégagent. Première perspective, pour être démocratique, et on va probablement en débattre avec François Dubé, l'école, en tout cas c'est une de mes convictions, doit être culturellement très ambitieuse. Et contrairement à ce qu'on a fait dire aux pédagogues, ce n'est pas parce que nous estimons que nous devons, comme disait Marianne Montessori, nous mettre à la portée de l'élève que nous disons qu'il faut se mettre à son niveau. Il y a là deux choses radicalement différentes. Se mettre à la portée est bien la moindre des choses. Se mettre à son niveau ne l'aide pas beaucoup à grandir. Et l'ambition culturelle à cet égard me paraît tout à fait centrale. Rien n'est plus méprisant, je crois, que de considérer que les élèves qu'on dit en difficulté doivent se contenter d'apprendre le français sur les petites annonces pour pouvoir trouver un job ou un appartement. Je fais l'hypothèse, moi, inverse, c'est que ces jeunes-là, ils ont une appétence culturelle considérable, que d'ailleurs, toute une série de travaux que je mène avec certains de mes étudiants, qui consistent à faire des ateliers philo en lycée professionnel, par exemple, que toute une série de travaux démontrent, on montre que c'est... Il y a une vraie appétence à la pensée même chez ces jeunes qu'on dit en situation de grand échec scolaire et qu'il vaut mieux parfois faire un détour par des modèles intellectuels plus ambitieux que de s'obstiner sur un certain nombre de savoirs qui ont fait l'objet d'un blocage et qu'on ne pourra retrouver que plus tard. J'ai moi-même, c'est un autre point commun que nous avons avec François, interrompu à deux reprises ma carrière universitaire pour aller enseigner dans le secondaire. Moi, je suis allé, je crois que François, c'était en collège, moi, c'était en lycée professionnel. J'ai débarqué il y a une quinzaine d'années en BEP Orsu, opérateur régleur de système d'usinage, c'est-à-dire futur livreur de pizza à mi-temps pour les 10% qui allaient trouver du boulot. Et j'avais en face de moi des grands gaillards à qui j'aurais pu expliquer pour la 72e fois la différence entre A accent et A sans accent. Mais ce n'est pas sûr que ce soit d'une grande utilité, parce qu'il n'y a pas de problème neuronal, il n'y a pas de problème intellectuel, il n'y a pas de problème cognitif. Ils font dans la vie quotidienne, ne serait-ce qu'en utilisant les téléphones portables ou les objets qui sont à leur disposition, des choses infiniment plus complexes que de distinguer le A accent du A sans accent. Infiniment plus complexe. Donc, s'ils ne comprennent pas, s'ils n'ont pas compris au bout de 70 fois la différence, ou s'ils continuent à faire la faute, c'est donc qu'il y a bien un blocage qui relève d'autre chose, qui relève d'un rapport au savoir, qui n'est pas construit, d'un rapport à la langue, qui n'est pas élaboré, d'un rapport à l'écrit, par rapport auquel ils sont en situation de blocage. Et plutôt que de revoir avec eux pour la 74e fois la différence entre accès sans et sans accent, j'ai plutôt travaillé sur la théogonie d'Hésiode, c'est-à-dire sur le texte fondateur de la mythologie grecque, et plutôt travaillé sur la paternité, sur pourquoi Cronos à la fois tue son père et mange ses enfants, castre son père et mange ses enfants. Et il me semble qu'à travers cette ambition culturelle qui a pu les raccrocher un peu à des mythes fondateurs, eh bien, j'ai pu pour quelques-uns les ramener à l'écrit, au statut de l'écrit, et leur faire entendre la nécessité d'écrire correctement ce qu'ils avaient à dire à d'autres. Donc c'est le premier point qui me semble important à retenir de ces travaux, c'est que le plaisir de l'entrée dans la culture n'est pas réservé à une élite et que c'est bien l'objectif de l'école pour chacune et chacun des élèves. D'autant plus que si on n'a pas cette ambition-là, eh bien, on livre évidemment les élèves à tous les marchands d'illusions et à tous ceux et toutes celles qui vont leur vendre ce qui passera pour une vision du monde et qui ne sera en réalité que de la superstition. D'ailleurs, très intéressant, un de mes étudiants fait actuellement une recherche sur les sites internet les plus visités par les élèves de collège, les sites, c'est-à-dire pas les réseaux sociaux et pas les jeux vidéo, qui sont quand même les deux usages dominants d'internet, mais les sites internet les plus visités, et les sites internet les plus visités qui arrivent en tête sont les sites satanistes, les sites soucoupistes, ceux qui parlent de soucoupes volantes, les sites qui parlent de numérologie, c'est-à-dire tout ce qui renvoie dans une société qu'on dit rationnelle et scientifique à l'irrationnel et à la superstition. Donc ne pas aborder ces questions et les questions, on va dire, anthropologiques fondamentales avec nos élèves, c'est les abandonner à ceux et celles qui vont les traiter avec eux, mais qui vont les traiter sur un registre qui ne leur permettront pas précisément un travail d'émancipation intellectuelle. Donc je vais très vite, on pourrait en parler très longuement. Deuxièmement, et c'est un point fort qui émerge, me semble-t-il, du livre, ce qui se transmet, ce n'est pas simplement le savoir, ce qui se transmet dans la relation pédagogique, c'est le rapport au savoir que l'enseignant entretient lui-même, y compris avec son propre savoir. Ça, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose dont témoignent, me semble-t-il, plusieurs contributeurs, c'est quelque chose que moi-même j'ai profondément retrouvé tout au long de mon parcours. C'est clair que si l'enseignant entretient avec son propre savoir un rapport qui est un rapport purement utilitariste, qui est un rapport de transmission, mais au sens mécanique du terme, s'il n'entretient pas un rapport de recherche par rapport à son propre savoir, s'il n'est pas en alerte en permanence par rapport à son propre savoir, s'il n'éprouve pas du plaisir à expliquer, du plaisir à chercher en permanence comment mieux faire comprendre, eh bien, bien évidemment, il va s'interdire de transmettre cette épistémophilie. L'épistémophilie, vous savez, c'est le terme grec pour dire l'amour du savoir, dont on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux qu'elle fût une maladie sexuellement transmissible. Mais bon, Socrate pensait qu'elle l'était.
C'est pour ça qu'on l'a invité à boire la ciguë.
Voilà. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on l'a invité à boire la ciguë. Mais je fais partie de ceux qui, me semble-t-il, sont convaincus et ont cherché à mettre en œuvre, y compris à travers la formation des enseignants, cette idée que tout enseignant doit pouvoir être un enseignant-chercheur, et pas simplement les universitaires. Un enseignant-chercheur dans son propre savoir, dans sa manière de le présenter, dans sa manière chaque jour d'inventer de nouvelles manières d'entrer dans ce savoir, de nouveaux exercices, de nouveaux exemples, dans cette manière de se positionner, non pas en transmetteur mécanique et répétitif des mêmes choses toute sa vie et toute sa carrière, mais en inventeur permanent des savoirs qu'il transmet et qu'il fait vivre, parce qu'il les transmet non pas comme des fossiles, mais comme des moments vivants dont il permet de ressentir le tressaillement qui a contribué à leur construction. Troisième idée, hein, mais elle est extrêmement simple et je vais la formuler d'une manière très rapide. Pour faire progresser les élèves, la pédagogie doit se donner comme objectif non pas d'opposer le plaisir et l'effort, mais de les réconcilier. Et je me range volontiers dans ce cadre-là à ce que propose André Malicot autour de la pédagogie du chef-d'œuvre. Un certain nombre de ceux qui attaquent les pédagogues, les traitant de laxistes et qui se prétendent tenant de la discipline et de l'exigence promeuvent une vision de l'évaluation qui est, me semble-t-il, la pire qu'on puisse imaginer et la plus laxiste qu'on puisse imaginer. Quand vous pratiquez l'évaluation en mettant 7 sur 20 à un élève en début d'année en dissertation de français, 7,5 la fois d'après, 8 au deuxième trimestre, vous redescend à 6, il remonte à 9 et puis vous lui faites une moyenne de fin d'année qui est de l'ordre de 8,5, vous êtes dans le laxisme le plus total. C'est-à-dire que vous êtes dans ce que Paulo Freire nomme la pédagogie bancaire, vous payez l'effort, et éventuellement vous payez le non-effort, et chacun s'arrête là, il bâcle son devoir, vous lui mettez une mauvaise note, et puis bon, bah, tout le monde est content, ou tout le monde n'est pas content, enfin peu importe, en tout cas, il n'y a pas de progrès. Il serait probablement plus efficace, même si c'est plus exigeant, pour l'enseignant comme pour l'élève, de commencer à 7 et de faire refaire la dissertation jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir la note de 15, voire la note de 18, voire même la note maximale, parce qu'après tout, pourquoi pas, on pourrait bien imaginer qu'une dissertation puisse obtenir un 20 sur 20. J'avais proposé en 98, et ça a survécu quelques années, les travaux personnels encadrés dans le cadre d'une réforme que j'avais animée, qui consistait précisément à proposer aux élèves de lycée la réalisation de quelque chose qui pouvait être une forme de chef-d'œuvre dans lequel ils investissaient du temps, du travail, de l'énergie sur le long terme, en faisant la synthèse de compétences qui relèvent de l'écriture, de la mise en page, de la recherche documentaire, de la modélisation, etc. Et en allant jusqu'au au plus parfait de ce qu'ils peuvent faire et en le présentant, en espérant qu'ils soient fiers de le présenter. Je crois que cette pédagogie du chef-d'œuvre, qui est bien plus vieille que mes 68, hein, puisqu'elle date du Moyen-Âge, aurait le mérite de sortir l'école de cette espèce d'affaissement un peu systématique qui consiste à se contenter de mettre des mauvaises notes aux élèves qui bâclent leurs devoirs sans jamais les amener à produire quelque chose dont ils puissent être fiers. Voilà. Et c'est-à-dire dans lequel ils puissent réconcilier le plaisir et l'effort et se dire, voilà, c'était un défi que je m'étais donné, je suis arrivé jusqu'au bout et ainsi j'ai progressé et je suis heureux de ce que je suis arrivé à faire. Et c'est là que pourrait se situer le bonheur à l'école dans une vraie réussite partagée et partagée non pas parce que chacun fait ce qu'il veut, partagée parce qu'il y a une exigence qui est partagée et qu'on fait alliance avec l'élève pour l'aider à se dépasser. Hein. Cette alliance avec l'élève pour l'aider à se dépasser me semble devoir être au cœur de l'acte pédagogique. Et c'est dans cette alliance avec l'élève pour l'aider à se dépasser que l'on peut reconstruire, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le trouver au pied de leur berceau ou dans les relations qu'ils ont eues avec leur entourage familial, ce plaisir d'apprendre. Voilà quelques éléments, mais bien sûr très rapidement résumés, d'un certain nombre de choses qui sont dans cet ouvrage collectif, qui est illustré par des élèves de maternelle, des élèves par des dessins collectifs d'élèves de maternelle qui pratiquent une pédagogie inspirée d'une femme que je trouve très importante, mais qui est très méconnue, qui s'appelle Germaine Tortel, qui a proposé pour l'école maternelle une pédagogie à partir du dessin, à partir d'un dessin très exigeant, d'un dessin qui est dialogué, qui est construit progressivement sur plusieurs semaines et qui permet à l'enfant d'aller de l'expression et du geste tâtonné jusqu'au dessin qui lui permet presque de construire un concept, en tout cas de construire une histoire et d'accéder à la narrativité. Et j'ai tenu à ce que ce soit des dessins d'enfants qui illustre aussi en cohérence avec les textes cet ouvrage-là. Voilà. C'est vrai qu'il est canard.